Voilà, on va continuer avec un enregistrement qu'on a capté hier qui s'appelle Animal Liberation et Anarchisme en anglais. Je vais vous lancer ça tout de suite et ça va démarrer sans autre. Très bonne écoute et à tout bientôt.
Bonjour à toutes et à tous. On commence, si ça vous va. Oui, est-ce que tout le monde m'entend bien sans micro? C'est bon? Nickel? Ok. Alors déjà, merci beaucoup d'être là. Ça nous fait très plaisir de participer aux rencontres cette année. Alors, je m'appelle Tiffaine et je viens parler pour un collectif qui s'appelle 269 Libération Animale, qui a été fondé en 2015 et qui a pour particularité d'être un collectif antispéciste et anarchiste, et qui pratique surtout l'action directe. Et aujourd'hui, le but de cet atelier, c'est vraiment de s'interroger sur la pratique de l'action directe, ce qu'elle apporte à nos luttes, en quoi elle peut être efficace, et surtout en quoi c'est une tactique par essence anarchiste. Voilà, donc on va vous raconter un petit peu ce qu'on fait, un petit peu l'histoire de ce collectif. Et ce que je vous propose, c'est pour que ce soit moins scolaire, si vous avez des réflexions, des remarques, des questions, eh ben on peut interagir voilà, ensemble. Il n'y a pas besoin d'attendre le temps de la discussion pour faire. Vous pouvez interagir quand vous le souhaitez. Tu veux que je m'arrête déjà? Please 269 Libération Animale, c'est un collectif qui est né parce que dans le milieu antispéciste, quand on est arrivé en 2015, le seul horizon qui existait, c'était le véganisme assez dépolitisé. Il n'y avait pas beaucoup d'actions directes qui se pratiquaient, en tout cas pas de manière organisée. Et c'est vrai que nous, notre volonté dès le début, ça a été à la fois de politiser la lutte antispéciste, c'est-à-dire de la présenter comme une vraie lutte de gauche, de l'inscrire dans les combats d'émancipation, et à la fois dans la théorie, mais aussi dans la pratique, et d'utiliser du coup des pratiques de lutte qui étaient beaucoup plus offensives que ce qui se faisait jusqu'alors, et de viser des cibles très différentes. La particularité de ce collectif, c'est de viser des grands groupes de l'exploitation animale. Désolée. J'y reviendrai de toute façon après, te tracasse pas. Et c'est vrai que de cibler en fait des grosses industries de l'exploitation animale, ça nous a permis d'amener le discours anticapitaliste dans le mouvement antispéciste. Et ça, c'était vraiment quelque chose, c'est le but en fait hein, de ce collectif, et surtout de critiquer le concept de propriété. Aujourd'hui, les animaux, ils sont réduits à l'état de marchandises dans le système capitaliste. Et c'est évident qu'en utilisant l'action directe, on met ça en lumière, hein, le fait que les animaux sont des propriétés, et on attaque aussi les propriétés, les moyens de production de l'exploitation animale. Et vraiment, la particularité de ce collectif, c'est de ne plus cibler les individus, de ne pas chercher à convaincre les gens d'être véganes, mais de cibler l'outil de production capitaliste qui exploite en fait les animaux. Et on est vraiment dans une logique systémique et plus du tout dans une logique de convaincre chaque personne d'être végane. Voilà, c'était vraiment ça le bien fondé de ce collectif et ce pourquoi il a été créé. La pratique de l'action directe, évidemment, elle a existé dans le mouvement antispéciste, pas beaucoup en France. Tout le monde connaît davantage en Angleterre le mouvement ALF. Et ALF était un groupe anarchiste à ses débuts, qui se revendiquait comme tel et qui avait d'ailleurs un discours très politique. Ensuite, ça s'est beaucoup plus... c'est un petit peu dépolitisé par la suite. Quand ça s'est dispersé, etc. Mais à la base, en fait, il y a de réels liens entre la naissance du mouvement de libération animale et l'anarchisme. Alors, on ne va pas revenir à ces fameuses citations de Louise Michel qu'on invoque en permanence. C'est pas l'objet aujourd'hui. Mais c'est plutôt d'essayer de comprendre, en fait, pourquoi les deux sont indiscutablement liés et comment, en fait, ils se nourrissent l'un l'autre. Et surtout, l'intérêt de politiser le mouvement antispéciste. Peut-être tu voulais dire quelque chose ? Pardon. Ouais. D'ailleurs, le mouvement ALF en Angleterre s'est beaucoup disputé. Aussi avec le mouvement anarchiste, à un moment donné, il y a eu une grande, ce qu'on peut appeler une dispute, une scission en fait, entre l'ALF et le mouvement Class War. Parce qu'en Angleterre, on estimait que les actions que menait l'ALF étaient très élitistes et qu'elles étaient surtout coupées en fait, des salariés en fait, de l'exploitation animale. Elles ne prenaient pas en considération en fait, la condition des ouvriers qui travaillent dans le milieu de l'exploitation animale. Et ça, c'est une réflexion qui a eu lieu assez tôt dans le groupe 269 Libération Animale. C'est que quand on va, par exemple, bloquer un abattoir ou utiliser un autre procédé d'action directe dans un abattoir, mais qu'est-ce qu'on fait en fait, des salariés qui s'y trouvent et des ouvriers comment est-ce qu'on fait pour faire cette action sans la faire contre eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué quand on pratique l'action directe sans la faire en collaboration, évidemment, avec les salariés de l'exploitation animale. Et aujourd'hui, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse, malheureusement. Surtout que les ouvriers d'abattoirs sont très peu syndiqués, notamment en France. Donc, il y a beaucoup de difficultés aussi à construire, en fait, quelque chose qui parlerait de la souffrance des animaux, mais aussi des travailleurs de ce milieu-là. Et ça, c'est vraiment une question qu'on essaye d'ouvrir et sur laquelle on essaie de réfléchir.
Industry.
Et ce problème avec les ouvriers d'abattoir, ce fait qu'on a du mal en fait à faire une connexion, ça révèle aussi quelque chose du mouvement antispéciste en lui-même qui pendant longtemps a évolué en vase clos. On a beaucoup de mal à faire des liens avec les autres luttes de gauche, on a beaucoup de mal à exister en fait tout simplement. Alors c'est moins vrai voilà, avec le milieu anarchiste qui a quand même toujours eu une histoire particulière avec le mouvement de libération animale. Mais c'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui et ça a été très dur de politiser cette question, notamment en France. Nous, au début, dans les années 2015-2016, ça a été extrêmement compliqué d'amener un discours qui sorte juste de la sensibilisation, du véganisme, etc., et qui monte un petit peu d'un cran et qui explique que c'est un vrai problème d'oppression, un vrai problème de classe, etc. Et tout ça, c'est un discours qui était très peu présent. Et ça a été extrêmement compliqué au début de la porter. Alors, c'est sans doute différent dans d'autres pays. La particularité de 269, c'est d'agir un petit peu dans tous les pays d'Europe. On a fait beaucoup d'actions directes en Italie, notamment en Espagne, en Belgique, en Allemagne, etc. Donc, les situations sont pas toujours les mêmes. Voilà, c'est assez différent. Et la pratique de l'action directe, elle n'a pas été non plus facile à défendre parce que quand vous pratiquez ce type d'activisme-là, vous avez tout de suite le mouvement qui, nous en tout cas en France, le mouvement antispéciste dans sa généralité s'est beaucoup opposé à la pratique de l'action directe en invoquant plusieurs arguments. Alors déjà en nous disant que ça nous coupait de l'opinion publique, que ça empêchait de massifier en fait le mouvement antispéciste. Mais là-dessus, on peut aussi avoir une réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le nombre est un facteur de puissance, voilà, dans les luttes que nous menons? Est-ce qu'il faut forcément être très nombreux pour être efficace? Parce qu'évidemment, voilà, la pratique de l'action directe, c'est quelque chose qui apparaît en tout cas comme radical et qui évidemment rassemble beaucoup moins de monde que des outils militants plus traditionnels, le tractage, la manifestation, etc. Oui, pardon. Pardon, ok. Ben, je m'arrête là alors. Que c'était pas facile la pratique de l'action directe et qu'il y avait des critiques.
Já vai, diretor.
O público está esperando.
Ah, já vai, diretor, já vai.
Sempre assim. O dia da estreia, uma namora danada.
Mas,
Ah.
calma, calma, diretor, calma. É o figurino, diretor, que é o único
Tá
colocado.
louco, já tá ali, ó.
É, quase, pera.
Ah, tá.
Pera, diretor.
Já tenho muita paciência com você, Rosa Freia.
Ai, para. Calma aí. Ai, meu Deus. Dá o bigode, peraí. Olha. Traga do
Nossa,
bigode.
aqui tá uma bagunça
Cadê o
absurda.
Parma? A música, diretor? Eu já entrei em cena. Diretor, se não. Manda aí sua parte,
Test.
Teatro sul.
J'y reviendrai de toute façon après, te tracasse pas. Et c'est vrai que de cibler en fait des grosses industries de l'exploitation animale, ça nous a permis d'amener le discours anticapitaliste dans le mouvement antispéciste. Et ça, c'était vraiment quelque chose. Bah, c'est le but en fait hein, de ce collectif, et surtout de critiquer le concept de propriété. Aujourd'hui, les animaux, ils sont réduits à l'état de marchandises dans le système capitaliste, et c'est évident qu'en utilisant l'action directe, on met ça en lumière, hein, le fait que les animaux sont des propriétés, et on attaque aussi les propriétés, les moyens de production de l'exploitation animale. Et vraiment, la particularité de ce collectif, c'est de ne plus cibler les individus, de ne pas chercher à convaincre les gens d'être véganes, mais de cibler l'outil de production capitaliste qui exploite en fait les animaux. Et on est vraiment dans une logique systémique et plus du tout dans une logique de convaincre chaque personne d'être végane. Voilà, c'était vraiment ça le bien fondé de ce collectif et ce pourquoi il a été créé. La pratique de l'action directe, évidemment, elle a existé dans le mouvement antispéciste, pas beaucoup en France. Tout le monde connaît davantage en Angleterre le mouvement ALF. Et ALF était un groupe anarchiste à ses débuts, qui se revendiquait comme tel et qui avait d'ailleurs un discours très politique. Ensuite, ça s'est beaucoup plus, voilà, c'est un petit peu dépolitisé par la suite. Quand ça s'est dispersé, etc. Mais à la base, en fait, il y a de réels liens entre la naissance du mouvement de libération animale et l'anarchisme. Alors, on ne va pas revenir à ces fameuses citations de Louise Michel qu'on invoque en permanence. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais c'est plutôt d'essayer de comprendre, en fait, pourquoi les deux sont indiscutablement liés et comment, en fait, ils se nourrissent l'un l'autre. Et surtout, l'intérêt de politiser le mouvement antispéciste. Peut-être tu voulais dire quelque chose? Pardon. Ouais.
So the direct action
tu veux embrayer sur quoi?
Peut-être sur ça. Comme ça, je veux dire, elle est justement rien pour les mecs. Après, je te laisse un peu la parole.
On peut parler de...
D'ailleurs, le mouvement ALF en Angleterre s'est beaucoup disputé. Aussi avec le mouvement anarchiste, à un moment donné, il y a eu une grande, ce qu'on peut appeler une dispute, une scission en fait entre l'ALF et le mouvement Class War. Parce qu'en Angleterre, on estimait que les actions que menait l'ALF étaient très élitistes et qu'elles étaient surtout coupées en fait des salariés en fait de l'exploitation animale. Elles ne prenaient pas en considération en fait la condition des ouvriers qui travaillent dans le milieu de l'exploitation animale. Et ça, c'est une réflexion qui a eu lieu assez tôt dans le groupe 269 Libération Animale. C'est que quand on va, par exemple, bloquer un abattoir... ou utiliser un autre procédé d'action directe dans un abattoir, mais qu'est-ce qu'on fait en fait des salariés qui s'y trouvent et des ouvriers? Comment est-ce qu'on fait pour faire cette action sans la faire contre eux? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué quand on pratique l'action directe sans la faire en collaboration, évidemment, avec les salariés de l'exploitation animale. Et aujourd'hui, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse, malheureusement. Surtout que les ouvriers d'abattoirs sont très peu syndiqués, notamment en France. Donc il y a beaucoup de difficultés aussi à construire en fait quelque chose qui parlerait de la souffrance des animaux, mais aussi des travailleurs de ce milieu-là. Et ça, c'est vraiment une question qu'on essaye d'ouvrir et sur laquelle on essaie de réfléchir. Et ce problème avec les ouvriers d'abattoir, ce fait qu'on a du mal en fait à faire une connexion, ça révèle aussi quelque chose du mouvement antispéciste en lui-même qui pendant longtemps a évolué en vase clos. On a beaucoup de mal à faire des liens avec les autres luttes de gauche, on a beaucoup de mal à exister en fait tout simplement. Alors c'est moins vrai avec le milieu anarchiste qui a quand même toujours eu une histoire particulière avec le mouvement de libération animale, mais c'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui et ça a été très dur de politiser cette question, notamment en France. Nous, au début, dans les années 2015-2016, ça a été extrêmement compliqué d'amener un discours qui sorte juste de la sensibilisation, du véganisme, etc., et qui monte un petit peu d'un cran et qui explique que c'est un vrai problème d'oppression, un vrai problème de classe, etc. Et tout ça, c'est un discours qui était très peu présent et ça a été extrêmement compliqué au début de la porter. Alors c'est sans doute différent dans d'autres pays. La particularité de 269, c'est d'agir un petit peu dans tous les pays d'Europe. On a fait beaucoup d'actions directes en Italie, notamment en Espagne, en Belgique, en Allemagne, etc. Donc les situations sont pas toujours les mêmes. Voilà, c'est assez différent.
these links with other leftist movements is something that's being worked on strongly with this group, and also to have as these circles are different in different countries and different regions, trying to have an appropriate approach while being active in Italy, Spain, Belgium, France, Germany.
Et la pratique de l'action directe, elle n'a pas été non plus facile à défendre parce que vous, quand vous pratiquez ce type d'activisme-là, vous avez tout de suite le mouvement qui, nous en tout cas en France, le mouvement antispéciste dans sa généralité s'est beaucoup opposé à la pratique de l'action directe en invoquant plusieurs arguments. Alors déjà en nous disant que ça nous coupait de l'opinion publique, que ça empêchait de massifier en fait le mouvement antispéciste. Mais là-dessus, on peut aussi avoir une réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le nombre est un facteur de puissance dans les luttes que nous menons? Est-ce qu'il faut forcément être très nombreux pour être efficace? Parce qu'évidemment, la pratique de l'action directe, c'est quelque chose qui apparaît en tout cas comme radical et qui évidemment rassemble beaucoup moins de monde que des outils militants plus traditionnels, le tractage, la manifestation, etc. Oui, pardon. Pardon, ok. Je m'arrête là alors. Que c'était pas facile la pratique de l'action directe et qu'il y avait des critiques. Et on a essayé de populariser, dans le bon sens du terme, la pratique de l'action directe et de montrer justement qu'elle était accessible à tout le monde, et y compris surtout aux femmes. Parce que moi, je parle de ma position, j'ai été beaucoup confrontée au sexisme dans le milieu antispéciste, au fait que l'action directe, et surtout avec l'imagerie ALF, elle a été associée à quelque chose de très viril. Il fallait absolument avoir des gros muscles pour faire de l'action directe. Et ça a été aussi très compliqué de déconstruire ça et de montrer que c'était à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, sous les cagoules, chez 269, 70% des personnes sont des femmes. Et ça, c'est un sujet important aussi qu'on a essayé d'amener en termes de réflexion. Et la pratique de l'action directe nous a aussi permis d'entrer immédiatement et de montrer que ce qu'on faisait était remettant en cause l'État, le concept d'État. Parce qu'évidemment, quand on utilise des modes de contestation qui sont prévus déjà par le système, c'est-à-dire la pétition, le tractage, etc., finalement, on n'est pas dans des réelles pratiques de confrontation au pouvoir. La pratique de l'action directe nous met directement dans une posture de confrontation et de contestation du pouvoir. Et surtout, elle nous permet de montrer que l'État n'est pas un allié dans la lutte de libération animale, comme dans les autres luttes d'ailleurs. Mais ça, vraiment, l'action directe, c'est comme si ça avait été un instrument, en fait, de démonstration d'une théorie que nous avions. C'était celle que l'État n'était pas un allié de notre lutte. Et ça, c'est fondamental pour nous et c'est ce qui la rend aussi très anarchiste. Continue sur ce qui est contre l'action directe, ce qu'on lui oppose en fait. Est-ce qu'elle est efficace? Tu arrives?
Oui. manifestation that have been put in place by the state, like petitions, for instance, are not effective because they demand the state to help. And this is clearly showing that the direct action needs to be taken.
Et c'était important d'amener aussi cette réflexion stratégique dans le mouvement antispéciste, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les conférences, etc., que l'on fait hein, dans les différentes luttes, c'est souvent très théorique, mais il y a très peu de réflexion sur la mise en pratique, en fait. Qu'est-ce qu'on fait après concrètement ? C'est très beau de se rencontrer, d'avoir des idées, mais ensuite, comment on les concrétise, en fait, ces idées ? Et moi, j'ai vraiment, et dans ce collectif, on a très à cœur aussi de réactiver quelque chose. Alors, vous allez me dire, c'est très... mais quelque chose de révolutionnaire, en fait, dans cette lutte-là. Et moi, je pense vraiment que l'antispécisme, il a quelque chose en lui de révolutionnaire parce qu'il remet vraiment en cause, en fait, le système capitaliste. Et les animaux, aujourd'hui, c'est vraiment dans ce que fait le capitalisme de pire. Aujourd'hui, quand on entre dans un abattoir, c'est quand même une machine à tuer. Et c'est là que, ça vous explose, en fait, au visage, ce qui se passe. Et c'est là que le capitalisme démontre sa vraie nature, en fait, dans l'abattoir. Le sang, vous voyez ce que je veux dire, la cadence infernale, la souffrance en partage aussi entre les animaux et les humains. Et c'est des cibles qui ont été longtemps ignorées. Et je trouve, moi, qu'elles réactivent, quelque chose, et surtout que c'est un véhicule. C'est pas grave. C'est juste pour parler des abattoirs et surtout que c'est des lieux dans lesquels, oui, le capitalisme montre ce qu'il fait de pire, notamment dans l'exploitation, à réduire les animaux à des états de marchandises, et la souffrance en partage aussi entre animaux et humains, que c'est des cibles qu'il faut viser. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'action directe, mais concrètement, qu'est-ce que ce groupe fait, en fait ? Ce serait quand même intéressant de le dire à un moment donné. Alors, il a une partie... On a beaucoup, au début, pratiqué ce qu'on appelle la désobéissance civile, à visage découvert. Pas forcément parce qu'on croit en cette méthode-là à long terme, mais parce qu'il a été nécessaire... pour justement essayer de populariser un petit peu l'action directe et pas d'en faire quelque chose d'élitiste, clandestin au début. Y a eu besoin de l'incarner, de montrer en fait que c'était quelque chose de réalisable et à la portée de tout le monde. Et le fait d'avoir pratiqué la désobéissance civile à visage découvert a permis d'attirer plus de monde vers ces pratiques de lutte-là au début. Donc au début, c'est beaucoup passé par ce qu'on appelle des blocages d'abattoirs, c'est-à-dire... elle arrivera, c'est parce que j'explique juste en détail, le blocage d'abattoir, ça consiste à rentrer dans l'abattoir et à bloquer la chaîne d'abattage. Voilà.
Human
Et les blocages d'abattoirs, on en a fait assez régulièrement dans plusieurs pays d'Europe. Alors évidemment, la répression là-dessus, sur ce volet-là, nous a rapidement rattrapés, puisque, bah voilà, pratiquant ces actions-là à visage découvert, on a été assez tôt, au bout d'un ou deux ans, attrapés par des sursis de prison. Surtout que le principe du blocage d'abattoir, c'est de résister jusqu'à l'évacuation par la police. Donc évidemment, de toute façon, à la fin d'un blocage d'abattoir, on est interpellé. Mais le fait d'avoir eu des sursis de prison, en fait, on a ensuite produit une réflexion stratégique pour essayer justement de savoir comment on allait continuer cela sans avoir de problème avec la justice. Et la technique, la stratégie qu'on a mise en place, c'est celle, on pourrait appeler, de l'internationalisme, c'est-à-dire d'aller bloquer, en fait, dans des pays dans lesquels on n'a pas de casier et dans lesquels on est inconnu et dans lesquels, en fait, on ne craint pas grand-chose. Voilà. C'est ce qui a permis de continuer les blocages d'abattoirs. Voilà, et à côté de ça, il y a des actions qui sont en cagoule. 209 fait des actions aussi masquées, des libérations d'animaux dans les abattoirs. Il est important pour nous de viser principalement les abattoirs. L'abattoir, c'est une cible qui nous permet de donner un message, en fait, très fort au mouvement antispéciste, celui de l'anticapitalisme. Et celui d'une vision matérialiste systémique des choses. Ça, c'est très important pour nous. Et c'est vrai que la pratique de l'action directe, quand elle a commencé avec cette ampleur des blocages d'abattoirs qui réunissaient quand même au début voilà, beaucoup de monde, peut-être sur les plus gros 150 personnes, ça a quand même en France apporté quelque chose de l'ordre du rapport de force en fait. C'est que tout d'un coup, le mouvement antispéciste de quelque chose qui était très basé sur le véganisme et qui était complètement inoffensif, était devenu quelque chose qui représentait plus une menace voilà, pour le système d'exploitation animale. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est comment une lutte, elle peut exister si elle n'est pas une menace pour son ennemi. Et aujourd'hui, il y a un problème là-dessus. Enfin, il y a quelque chose qu'on pourrait discuter sur comment on gagne en fait en offensivité, comment, voilà, par quelle tactique on peut y arriver. Et ça, il me semble que c'est fondamental parce qu'une lutte qui évolue en vase clos et qui parvient pas à incarner... une réelle menace en fait pour son ennemi, pour ce qu'il combat, c'est une lutte qui n'existe pas. Et d'ailleurs, ça emprunte un petit peu à ce qu'on a appelé dans le mouvement anarchiste la propagande par le fait. C'est utiliser des actions symboliquement très fortes pour aussi à la fois en termes d'efficacité, parce que quand on arrête un abattoir sur 24 heures ou une journée, allez, ils perdent quand même, pour les plus gros, ils perdent jusqu'à 60 000, 70 000 euros de dommages et intérêts, en fait, hein, qu'on crée à cet abattoir-là. Mais c'est surtout un excellent vecteur de message, en fait. Et ça, c'est vraiment une tactique anarchiste, la propagande par le fait. Donc, il n'y a pas toujours fait l'unanimité, mais en tout cas, ouais, ça véhicule un message extrêmement fort de, voilà, de rapport de force, et ça rappelle des tactiques du mouvement anarchiste. Et d'ailleurs, c'est cette pratique de l'action directe qui a permis de créer des liens et enfin, en fait, de politiser ce combat-là et de faire des liens avec d'autres luttes et surtout d'exister, en fait, au sein de la gauche en France. Et c'est grâce aussi à cette pratique de l'action directe-là qu'il y a eu voilà, cette politisation, en fait, de l'antispécisme qui s'est faite. Et ce qui est aussi très beau dans les actions de libération qui sont menées, quand on libère des animaux des abattoirs, c'est que ça a permis de mettre en place tout un réseau de personnes qui accueillent, en fait, ces animaux qui sont vraiment pourchassés voilà, par la police, par les services vétérinaires. 269 a un sanctuaire, donc un lieu sur lequel sont accueillis en fait ces animaux issus des actions directes. Et c'est des animaux qui n'ont évidemment pas de papier, etc., et qui sont pourchassés, hein, il faut le savoir, par les autorités, voilà, en tout cas en France, parce qu'ils n'ont pas de papier, pas de voilà, et qu'ils ont été volés et sortis d'un système. Et ce qui est très beau sur ces actions de libération-là, c'est que parfois, on a l'image du sauveur qui vient, voilà, prendre un animal. Et il y a cette image très humanitaire, animalitaire, en fait, hein, qui est déplaisante. Mais nous, on les voit beaucoup plus comme des gestes de complicité. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup opposé. C'est de dire, mais puisque les animaux ne peuvent pas se libérer par eux-mêmes, en fait, tout ce mouvement antispéciste, il est fondamentalement bourgeois et paternaliste. Et 269 essaie de montrer que c'est, en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas, on n'est pas dans une version, en fait, humanitaire ou animalitaire de la libération animale. C'est des gestes de complicité et c'est surtout qu'on questionne le concept d'autonomie. Mais je m'arrête là.
Try and act as allies instead of, you know, this human. En effet, les animaux sont, lorsque c'était possible, lorsque c'était encore possible, les animaux fouillaient très régulièrement, non pas des abattoirs, parce que lorsque les abattoirs sont arrivés, très rapidement, les abattoirs ont été construits de telle manière à ce que la fuite soit impossible, mais dans les boucheries.
Plus fort.
En effet, les animaux ont fouillé. Et d'ailleurs de manière régulière, lorsque ce n'était pas des abattoirs qui étaient construits comme ils sont construits aujourd'hui. Et du coup, la fuite est partie intégrante de la politique dont sont capables les animaux. Car en effet, toute l'histoire de l'industrialisation de l'élevage et de l'abattage, c'est l'histoire de la contre-attaque contre les attaques menées par les animaux. C'est-à-dire que tout est pensé de telle manière à ce que la résistance animale soit réduite au possible. Et c'est quelque chose qui est à prendre en compte pour parler de l'autonomie des animaux et pour parler de la politique des animaux, de ce dont ils sont capables de faire ou pas. L'histoire.
So really highlighting that is important to, again, like empower that political agency.
Qu'en fait, l'autonomie n'est pas un concept transcendantal qui est accessible à tous les individus parce que simplement ils sont des individus, mais que l'autonomie est le résultat d'un dispositif social.
So that autonomy is not something that is accessible to all.
C'est le résultat d'un dispositif social. C'est-à-dire que la première question que l'on doit poser par rapport à l'autonomie, c'est en fait qui ne l'a pas. Parce qu'en fait, si on ne sait pas que pour ceux qui sont capables d'être autonomes, ben en fait, ils sont déjà dans des dispositifs sociaux qui leur permettent de l'être. Lorsqu'on lit, par exemple, qui est maintenant une féministe qui est rejetée dans l'histoire, mais Simone de Beauvoir, lorsqu'elle écrit ses mémoires, elle dit finalement tout ce qu'on a écrit avec Sartre, c'est problématique parce qu'en fait, on pensait que ce que l'on vivait, ce dont on était capable, c'était juste parce qu'on était des individus, alors qu'en fait, c'était le résultat de notre classe.
Et justement, c'est super intéressant de voir comme la lutte antispéciste, elle nous permet de questionner beaucoup de concepts hein, qu'on utilise dans les luttes des concepts politiques, et notamment l'autonomie. Aujourd'hui, quand vous avez des animaux qui ont des corps génétiquement modifiés pour ne pas pouvoir se déplacer, par exemple, comment voulez-vous qu'ils se libèrent par eux-mêmes? Et ça, c'est pourtant un argument qu'on entend encore aujourd'hui dans la gauche et qu'on nous jette à la figure pour nous dire que ce n'est pas une lutte politique parce qu'en fait, on agit pour autrui. Et on nous place toujours dans la position du porte-parole, donc forcément... dans une position paternaliste. Et ça, c'est important, du coup, qu'il y ait une déconstruction de ces concepts-là et qu'on essaie de réfléchir à aujourd'hui, comme disait Kenzo, à ce que ça veut dire, en fait, l'autonomie et est-ce que ça doit vraiment être un frein à l'intérêt qu'on peut porter à la lutte antispéciste.
Yeah, so, they free themselves without help. There are often the anti-speciesism movement often receives criticism by the left, which sees them as paternalistic because their activism consists in freeing others instead of freeing themselves, and so it's like acting according to them, it's like acting as
a spokesperson,
but like what you can see with the current conditions of the animals is that this help is actually needed, and you can't really do it any other way. So.
C'est cela. Si les animaux ne savent pas s'autodéterminer, ne sont pas autonomes, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils le sont par nature ou par essence que les animaux autres qu'humains sont incapables de penser et de se mouvoir dans l'espace et d'autodéterminer l'espace qu'ils veulent occuper, les activités qu'ils veulent exécuter, mais bien parce qu'ils sont pris dans des dispositifs mutilants, qui mutilent leur capacité d'agir, qui mutilent leur déplacement, qui mutilent leur corps tout simplement. Et dans cette perspective-là, l'antispécisme, un antispécisme qui soit anarchiste, doit penser à organiser une société qui pense à l'autodétermination des groupes animaux, que ces groupes animaux-là puissent finalement s'autodéterminer. Comment on fait advenir cela ?
Unable to self-determine their future and their life. Their current conditions are the result of a system that mutilates their bodies and their capacity to act. And so anti-speciesism is about giving them back this agency that the system takes away from them.
And specifically in anarchist anti-speciesism, about thinking of or setting up a society where animals are given back this agency and given back this freedom.
Si vous êtes d'accord, le mieux, c'est qu'on projette quelques images des actions que fait 269 Libération Animale, et comme ça, ça nous permet ensuite de poursuivre la discussion.
Est-ce qu'on peut éteindre la lumière ?
Le son, attends, il faut mettre le son.
Je crois que j'ai pas le son. Là, il y a le son.
Attends, Elle avait montré ses... Elle l'a mis.
Tu veux essayer ?
Attends, sinon on va la chercher, non ?
Attends, on va essayer de la lancer peut-être, pour voir.
Je ne saurais pas l'arrêter, moi, sinon on ne se voit bien. Parce que pourquoi c'est marqué son vide ? Pourquoi c'est marqué son vide ? C'est marqué son vide sur son ordinateur. Son vide. Oui.
Tu veux pas qu'on la lance ? Une seconde.
Le problème, c'est que je sais pas où on règle le son du tout du problème, en fait.
Ici.
Oui, mais non, parce que ça projette le son est là-bas. Hein.
Ouais, mais ici, avec l'application, on sait directement gérer ça. Tu vois ?
Bah écoute, viens, on lance alors. Oui, mais il n'y a pas de son. On a un problème de son. Elle arrive tout de suite hein, pour parce que je ne sais pas comment on met le son. Oui. Oui. Il y en a eu, hein. Il fut une époque, il y en a quand même eu. Et puis il y a parfois des attaques aussi de ce qu'on appelle la direction des services vétérinaires. C'est la police sanitaire, les services vétérinaires qui viennent au sanctuaire pour déposer des décrets d'abattage contre des animaux qui n'ont pas de papier. Après, on organise des résistances à ça. Et jusqu'à présent, heureusement, il n'y a aucun animal qui a été voilà, repris par l'État. Mais il y a des attaques régulières contre eux, en tout cas. Et au tout début, pour les premières actions de libération qu'on a menées en France, maintenant, comme la pratique est un peu plus européenne, voilà, on évite un peu plus les perquisitions, mais il y en a eu, hein. Mais jamais, à aucun moment, en fait, les abattoirs n'ont réclamé à récupérer les animaux. Ce n'était pas un souhait, en fait, de leur part ni de la justice. C'était, voilà, récupérer, évidemment, la perte financière, mais... C'est vrai qu'il n'y avait pas voilà, non plus cette volonté particulière de récupérer les animaux par le système. C'était plus, oui, des compensations financières, etc. Et les services vétérinaires veulent les abattre en disant qu'ils ne sont pas contrôlés pour les maladies et qu'ils n'ont pas de papier, donc ils n'ont pas le droit de vivre. Voilà, tout simplement.
On laisse traduire et on prend la question. De l'association du groupe 269 Libération Animale. Ouais, 269 Libération Animale, qui est pas la même chose que 269 Live. Alors, avant 269 Libération Animale, il y a un groupe antispéciste qui s'appelait 269 Live. Et qui du coup, duquel le système de libération animale a rompu, enfin avec lequel le système de libération animale a rompu pour différentes raisons. Mais 269 Life, à la base, le nom 269, il vient du chiffre d'immatriculation, d'identification d'un veau qui avait été sauvé par des activistes en Israël. Il s'était accroché à son oreille.
C'est bon.
Yeah, like the ear tag, but more specific, it's like a number like that they give to
on fait un essai pour libérer la personne qui est gentiment venue nous, voilà, nous aider. Pas de son. Tu veux que je... C'est là? C'est où comme vous... Mais en fait, on est très organisé là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une voiture éclaireuse qui passe le poste frontière. S'il n'y a pas de contrôle, eh ben, ils donnent le signal à la voiture qui transporte les animaux et on passe. Et puis, on met au volant des personnes qui n'attirent pas l'attention. Ça passe toujours beaucoup plus facilement. Voilà. On se sert des préjugés sexistes contre le système, mais ça fonctionne super bien. Quand tu... Vraiment, c'est impeccable. Voilà. Au début, il y a du son, Lucie, au début.
Il n'est pas très fort. Hein.
Peut-être ça, alors.
Parce qu'au début, il n'est pas fort, hein, le son.
Stop. Je réessaye. Ah, si, là, normalement, il y en a, là.
Oui.
Non, oui, il y en a. Normalement, il y en a.
Une.
Là-dessus, moi, il y a beaucoup de prises de risques, c'est une évidence, parce qu'on se contente d'une rencontre sur des événements de soutien et après, on fait confiance. Mais si vous voulez, il y a un degré, en fait, dans les actions. C'est-à-dire que le blocage d'abattoir, c'est quelque chose qui... c'est le niveau 1, on va dire. Le blocage d'abattoir, c'est ce qui réunit le plus de personnes que nous avons rencontrées, qui ont formulé leur désir de passer à ce type de pratique de lutte, qui partagent évidemment voilà, les mêmes idées, tout ça. On les fait déjà... participants, on essaie de leur apprendre en fait la tactique, hein, toutes les tactiques qui sont mises en œuvre dans ce type d'action. Et là, c'est un premier niveau. Les blocages d'abattoirs, ça n'entraîne pas de détention de prison. Voilà, quand vous êtes interpellé, ensuite, le plus gros risque qu'il y ait pour les personnes qui sont interpellées, ça va être quelques heures en garde à vue. Et en général, il n'y a même pas de procès sur ces actions-là. Donc, on sait que de toute façon, le risque là-dessus, il existe, mais il n'est pas... voilà. Ça ne va pas nous amener à de la détention, en tout cas pas pour les personnes, sauf pour les personnes qui ont du sursis de prison. Et puis ensuite, on monte voilà, les actions en cagoule qui sont plus risquées. Alors bon, c'est toujours délicat parce qu'il y a des appareils d'enregistrement ici, mais on ne parle pas évidemment que des libérations, vous m'avez peut-être comprise. On va parler en termes très généraux, ce sera plus simple. Tout ce qui est voilà, les opérations de sabotage, etc., il est évident que là, il faut un degré de confiance qui soit beaucoup plus sérieux et qui nous conduit à avoir des liens beaucoup plus beaucoup plus profond et beaucoup plus long, enfin durable en tout cas avec les personnes qui pratiquent avec nous, ça va de soi. Mais après, il faut faire confiance aussi un petit peu, sinon vous pratiquez jamais rien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les impératifs de sécurité sont parfois des paralysants aussi à la pratique de l'action directe. On a l'impression qu'il faut toujours qu'on soit voilà, au niveau maximal de sécurité pour pouvoir faire quelque chose, sauf que ce n'est pas possible aujourd'hui. Il y a toujours une part de risque quand vous faites confiance à quelqu'un, même si vous le connaissez depuis plusieurs mois. Bah, il se peut que cette personne un jour vous trahisse. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pouvez pas le savoir. Après, il faut moi, je crois parfois qu'il faut aussi accepter ça, en fait, et faire confiance. Voilà. Et surtout quand on est dans ce type de, bah, de pratique. Voilà. Après, c'est sans doute un pari risqué, mais il me semble que jusqu'à présent, il a porté ses fruits. On ne trouve jamais de vétérinaire qui accepte de se mettre en danger sur ce type de pratique. Pas jusqu'à présent. Oui, ça serait possible. Après, on a d'autres tactiques. C'est qu'en fait, on fait transiter les animaux par des familles qui n'attirent pas l'attention de la justice, qui ne sont pas connues. Et ces familles-là leur obtiennent des papiers, en fait, les déclarent comme des animaux trouvés. Et ensuite, ces animaux repartent du coup dans des lieux plus radicaux, des sanctuaires voilà, qui sont plus surveillés par la police. En fait, on procède comme ça.
La question, c'est est-ce que les blocages sont médiatisés et quel rapport on a avec les médias, mais du coup, c'est les réseaux sociaux, les médias type mainstream, les réseaux sociaux.
Ah oui, d'accord, merci. Oui, très bien, merci.
En tout cas, les blocages sont médiatisés. En fait, on a. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut rassembler 150 personnes
en fait,
en
je sais ça, on ne peut pas l'enlever.
C'est très compliqué.
Comment on met la vie
dans Astrid. Du coup, en effet, la médiatisation est un facteur de recrutement.
On est des calamités, oui. Franchement, je suis désolée. La barre d'en dessous, elle s'enlève toute seule. Elle s'enlève toute seule, la barre d'en dessous.
Du coup, le rapport par rapport aux médias en termes de plus généraux, les médias mainstream, il est arrivé à Tiffen d'y aller une fois ou deux, mais là ça fait plusieurs années qu'on n'y va plus et qu'en général même les gens spécifiques ne vont plus trop dans les médias aujourd'hui à part nous qui avons ici, qui connaissent un petit peu. Vous voulez que je laisse traduire
So the question was, what's their rapport with the media? They're saying that anything that's like social media, the brain function, that's kind of their tool, they use it a lot. It allows people to find out about the association and join it. But when it comes to mainstream media, they went on TV like once or twice, and now it's been a few years that they pretty much cut ties with the mainstream media.
Mais d'ailleurs, la question des médias, ça soulève une question plus générale. C'est finalement comment on fait. C'est soit on fait plein de micro-actions directes, mais des petites actions directes partout et on reste dans une forme de marginalité. Ou alors on essaie de faire des très grosses actions directes qui attirent un peu plus de monde. Et du coup, il faut les visibiliser en fait pour qu'on essaie de changer le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est compliqué parce que comment on y arrive en fait si on reste très marginaux, très c'est super compliqué. On est toujours sur le fil et c'est des questions qu'on se pose beaucoup nous et sur lesquelles on évolue énormément. Mais moi, il me semble que en fait, faire plein de petites actions directes, vous voyez, style destruction de Mirador, etc. Ça ne va pas avancer, en fait, ça ne donnera pas de la force, en fait, à ce mouvement-là. Il faut une pratique d'action directe qui soit organisée, très offensive, et surtout qui soit en capacité de viser des grosses cibles. Et pour qu'elle soit en capacité de viser des grosses cibles, il faut qu'elle ait des moyens, ça coûte hyper cher l'action directe. Et surtout, il faut qu'elle ait des soutiens. Parce que si vous prenez des risques de prison et que vous n'avez pas de soutien, vous allez croupir dans votre cellule. Il n'y a personne qui viendra faire des campagnes. Vous voyez ce que je veux dire pour populariser ça, pour rendre ça visible. Et en fait, c'est toute la difficulté qu'on a. Mais moi, pendant longtemps, j'ai cru que voilà, plein de petites actions directes à droite, à gauche, ça emporterait quelque chose. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas. Il faut quelque chose qui soit plus structuré, à mon avis. Peut-être qu'il y avait quelqu'un voulait réagir là-dessus parce que c'est peut-être. On peut regarder, puis après, comme ça, on continue. Alors, maintenant que ça marche, autant en profiter. J'espère que le son ne va pas être trop fort quand ça va démarrer. Peut-être. Ça ne marche pas. Si, c'est bon. Mais il y a quelque chose aussi de très beau dans la pratique de l'action directe et c'est pas mal de le dire. Voilà, ça fait parfois du bien quand on lutte. C'était pour vous montrer, du coup au début c'était un blocage d'abattoir, mais vous voyez que ces dernières années il y a aussi la volonté de se masquer sur les blocages d'abattoir. Évidemment, ça n'empêche pas l'interpellation par la police, mais en tout cas il n'y a pas de visages voilà, qui sont diffusés à travers les réseaux sociaux, etc. Et puis après, la deuxième partie, c'est les actions qui sont systématiquement à visage caché, les libérations et puis le reste qu'on ne peut pas montrer en vidéo. Voilà. Du coup, je crois qu'avant de diffuser les vidéos, on parlait de... pardon, tu avais une question peut-être ?
Je me posais la question, là, on voit une vidéo d'abattoir. Est-ce que vous ciblez aussi les élevages, les gros élevages?
Peut-être vous voulez d'abord traduire la question. C'est... Non, c'est que les deux premières années, les blocages d'abattoirs étaient à visage découvert. Maintenant, systématiquement masqués. Et le plus d'activistes possible essaient de ne pas donner leur identité. Il y a des activistes qui choisissent de ne pas... Voilà. Je réponds d'abord à... Oui, oui sur les cibles. Quand on peut, on préfère toujours viser les abattoirs. pour la simple et bonne raison que c'est une cible réellement symbolique et porteuse d'un message beaucoup plus puissant que les élevages. L'abattoir, c'est tout de suite... Y a, d'ailleurs, en France, les abattoirs sont pour la plupart de grosses structures. Ça vous permet tout de suite d'infuser vers le message anticapitaliste, de prime abord. Et surtout, le message qu'on attaque un système et pas des individus. On ne vient pas chercher les ouvriers d'abattoir, on vient attaquer l'abattoir en tant que structure et lieu d'exploitation. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Parce que quand on va dans les élevages... il y a toujours ce risque d'être davantage perçu comme une action contre l'éleveur. Et on sait aujourd'hui que le monde de l'élevage, il n'est pas facile pour les éleveurs non plus, qu'il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de souffrance aussi, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, la cible abattoir me semble beaucoup plus judicieuse stratégiquement parlant. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces actions-là, certes, il y a un message qui est, un message extra-symbolique, mais elles ont aussi pour vertu d'avoir une efficacité quand même. Quand on fait un blocage d'abattoir, je disais tout à l'heure, c'est quand même 40 000, 50 000, voire plus de dommages et intérêts pour l'abattoir, mais qui ne sont pas remboursés. Parce que quand nous, de nationalité française, on va agir en Allemagne, en fait, l'Allemagne ne peut pas nous faire de procès. Parce qu'on est mis en garde à vue après le blocage d'abattoir, ça va durer quelques heures. Bien sûr, nos identités sont relevées. Ensuite, on repart en France et pour avoir un procès, il faudrait qu'en fait l'État allemand puisse nous contraindre par corps à revenir en Allemagne pour aller assister à un procès. Et on sait très bien que c'est pas possible. La contrainte par corps, elle n'existe pas dans ce cas-là. Donc, de toute façon, la justice ne va jamais jusqu'au procès. Ça veut dire qu'en fait, la perte, elle est sèche pour l'abattoir. Et aujourd'hui, il faudra me dire quelle autre action directe est capable de créer 60 000 euros de dommages et intérêts qu'un blocage d'abattoir. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Après, bien sûr, si on rentre dans le sabotage, vous pourriez faire 60 000 euros de dommages et intérêts d'une autre manière. C'est des tactiques qu'on encourage aussi, évidemment. Je ne peux pas rentrer là dans les détails, mais voilà. Mais en tout cas, des grosses actions qui permettent à des gens de leur montrer qu'ils sont capables de faire ça, de leur apprendre ce que c'est l'action directe et tout, ben, y a que les blocages d'abattoirs qui le font. Et ce n'est pas rien de causer 60 000 euros de dommages et intérêts. Et ça serait extrêmement percutant. Pardon, excuse-moi. C'était par rapport à... Non, c'est pour une question après. Et je ne sais plus où j'en étais.
Là, il avait la deuxième question.
Ah oui, pardon. Je ne crois pas, moi, la possibilité du réensauvagement, parce que c'est des animaux qui ont vraiment leur corps qui est modifié par le système d'oppression. Et si tu veux, moi, pour vivre avec des animaux dans un sanctuaire, des animaux libérés, je le sais, c'est pas possible. Ils restent extrêmement dépendants de part, en fait, ils ont des corps prisons. On appelle ça, c'est vraiment le premier système d'enfermement, en fait, de l'animal dans ce, c'est vraiment son corps. Et en plus, il risquerait d'être abattu. Si tu mets un cochon dans un cochon comme ceux qu'on a vu dans la vidéo dans une forêt, il est abattu parce qu'un cochon qui n'a pas de boucle d'identification en France, il est systématiquement euthanasié par les services vétérinaires, encore une fois, parce qu'on les considère comme étant propagateurs possibles de maladies. Et du coup, ce cochon qui a été sorti en fait d'un élevage devient un problème pour les autres élevages. On a peur qu'il contamine les autres cochons, etc. Enfin, bon, bref, il rentre dans des psychoses délirantes, mais il y a vraiment un risque pour eux de toute façon d'être abattus fort rapidement. Donc je malheureusement, et encore une fois, c'est quelque chose, on a toujours une vision très idyllique des sanctuaires, comme si c'était des paradis sur terre, avec des petits animaux qui courent dans les pâquerettes, etc. Moi, je vous le dis, je vis dedans, c'est pas ça du tout. Un sanctuaire, c'est juste un espace où ils ont le droit de survivre, et c'est la galère tous les jours. Parce que tous les jours, ils continuent de souffrir, parce qu'ils sont bourrés de maladies, etc. C'est très compliqué, on n'arrive pas à combattre ça. La médecine vétérinaire est hyper spéciste, elle ne sait pas soigner ces maladies-là. Donc de toute façon, ils ne s'en sortent qu'avec beaucoup de difficultés. Mais c'est un geste de survie, un sanctuaire. Ce n'est pas du tout un paradis. C'est... Voilà. Et ce qui est important de comprendre aussi sur le projet de sanctuaire de 269 Libération Animale, notre but, c'est pas on va chercher des animaux dans les abattoirs et ensuite on vit avec eux dans le sanctuaire et tout va bien, quoi. Et on a atteint le but suprême de la lutte. Non. C'est des espaces qui doivent déborder, qui doivent infuser quelque chose en fait à l'extérieur. Ce collectif, il a pas pour mission et pour vertu finale en fait de mettre des animaux dans un sanctuaire. C'est pas ça son but. Il faut garder aussi cet aspect offensif de vouloir combattre tout ce qui se passe à l'extérieur en fait, parce que l'exploitation animale, c'est toujours le dilemme entre changer de mode de vie et changer le monde. 269 existe pour changer le monde. Pas pour changer notre vie à nous ou changer la vie de ces quelques animaux-là. On est d'accord que c'est une goutte d'eau quand on va sauver même 300 poules dans un abattoir. Ça représente par rapport aux 3 millions qui sont abattus en France chaque jour. Oui, c'est une goutte d'eau. Ça reste une petite victoire quand même, voilà. Mais c'est une goutte d'eau. Il faut que ça diffuse, quoi. Voilà. Et c'est important de comprendre ça parce que parfois, ces espaces-là, que ce soit les ZAD, les sanctuaires, etc., c'est un repli sur soi. Parfois, on a l'impression qu'on fait une petite société entre nous et alors, victorieux déjà en soi. C'est pas notre perspective. Notre perspective, c'est vraiment d'aller à l'attaque. Je ne peux pas le dire autrement, et ce n'est pas un gros mot, mais d'aller au combat. Parce que et c'est pour ça que je pense que la question de l'organisation, de la pratique, de la mise en pratique des idées révolutionnaires, elle est extrêmement importante et urgente à poser, parce qu'elle a malheureusement été un petit peu oubliée ces dernières années, et je pense qu'elle devrait être réactivée et qu'on devrait beaucoup se poser aussi des questions d'ordre technique.
So we got four questions for the moment waiting. One, two, three, and four. Five.
It's the order.
Yeah.
I wanted to say one thing or ask, but there came an answer to that. I still want to raise that because I think it's really important. I personally really, really hate radically pacifist protests in the way they happen in Europe, because when people come, for example, eco-activists to, damage something and sit with a banner or something to get caught, then they pay bill to compensate all the damage they made. The effectiveness is below zero. It's negative number because you give more money you took away. So I was really happy to hear that you don't get trials and you don't pay for the damage you made, and you really are effective with your work. It's really amazing.
Merci.
Sachant aussi qu'en plus, on peut organiser son insolvabilité. Et comme ça, même quand on a des grosses condamnations judiciaires, en fait, on ne paye pas les condamnations judiciaires. C'est-à-dire qu'on paye 1 euro en fait, par mois, et alors qu'on a 70 000 euros à payer à cet abattoir-là. Mais voilà, parce que pour les premières actions qui ont été menées en France, il y a eu des condamnations judiciaires, mais on ne les paye pas. On est insolvable. Voilà. Bon. Il faut se débarrasser de la propriété. C'est très bien parce que, voilà, on parle de principe anarchiste. Si tu n'es pas propriétaire de rien, ils peuvent venir, il n'y a rien à prendre. Et les animaux, actuellement, ne sont pas saisissables. En tout cas, ils n'ont jamais fait l'objet d'une saisie pour payer des dettes. Voilà, parce que ça, c'est un risque qui aurait pu arriver puisque c'est des propriétés. Mais ils ne vont pas jusque-là. Je pense qu'ils savent très bien que ça susciterait un tel mouvement de protestation que les animaux soient saisis pour payer des dettes, qu'ils ne se lancent pas là-dedans. L'État ne se lance pas là-dedans. Je voulais juste dire quelque chose avant de reprendre les questions, c'est que j'aimerais bien que le message qu'on transmette aujourd'hui, c'est vraiment celui de vous dire que c'est possible, en fait. Souvent, on a l'impression que la police a atteint un tel niveau en matière de techniques d'investigation, de surveillance, etc., que c'est devenu impossible. L'action directe, ce n'est pas vrai. On est toujours beaucoup plus intelligent qu'eux. Ça, c'est, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a beaucoup plus d'imagination. L'imagination, c'est une qualité qu'on dénigre souvent dans les milieux militants. Bah, il ne faut pas, parce qu'elle est très précieuse, l'imagination. Et ensemble, en réfléchissant ensemble, on est capable de déployer des pratiques de lutte qui n'existent pas encore, mais qui sont à trouver, à inventer. Et on arrive à faire les choses. Et notamment avec cette niche que nous offre le droit pénal international, le casier judiciaire, il est national. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez essayer de naviguer entre les pays, de faire en fait de l'action directe et de repartir sans avoir de condamnation. Et ça, c'est tant que ça existe comme ça, il ne faut pas s'en priver. Voilà, il me semble que c'est quand même une super tactique.
Or wherever, and
L'un de vous, pour la question. Ah ouais, je crois pas.
Pardon. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est une mauvaise compréhension des. En fait, si tu veux, quand il y a 80 personnes, voilà, par exemple, qui bloquent l'abattoir en Allemagne. Voilà, on va prendre cet exemple-là. À majorité, c'est des personnes de nationalité française, italienne, belge, et il y avait quelques personnes espagnoles, de nationalité espagnole. Et en fait, ils ont été quelques heures en garde à vue. Bon, d'accord, les identités sont relevées. On retourne, chacun retourne chez soi. Mais ensuite, la justice allemande. Pour mettre en place un procès, il faudrait qu'elle convoque en fait 80 personnes qui ne sont pas dans son pays, hein, tu es d'accord avec moi, pour qu'elles viennent à ce procès-là. Il faudrait qu'elle arrive déjà à organiser un procès avec 80 personnes. Vous connaissez beaucoup de procès où il y a 80 prévenus qui doivent être auditionnés. En fait, c'est déjà impossible en tant que tel, ça ne se fait, ce type de procès-là ne se fait pas. Il faudrait que la justice elle s'organise pour faire une semaine d'audience. Parce que si tu as 80 personnes qui doivent défiler à la barre, elles doivent, tu vois ce que je veux dire, chacune venir. Donc déjà, en fait, structurellement, la justice ne peut pas le faire. Elle n'a pas les moyens de le faire. Et à part pour des cas, sans doute plus graves, tu vois ce que je veux dire, elle ne se lancera pas dans un procès de cette ampleur-là. Elle va chercher à identifier des organisateurs. Parce que les organisateurs, elle peut beaucoup plus facilement les mettre en prison. C'est ce qui s'est passé les premières années. C'est qu'en fait, évidemment, les personnes qui étaient fondatrices de ce collectif, elles ont été bien plus réprimées que les autres. Mais on a compris ça. Et ensuite, on a agi en fonction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment le collectif qui fait le blocage d'abattoir. Il n'y a pas d'organisateur. C'est tout le monde. Et tu vois ce que je veux dire? Et ça déstabilise l'adversaire en face. Parce qu'il ne sait pas faire. Quand il a 80 personnes, c'est pareil. Va mettre en garde à vue 80 personnes quand il n'y a rien de prévu pour. Surtout que les abattoirs sont souvent en zone rurale. Il n'y a pas de cellule de garde à vue pour 80 personnes, ça n'existe pas. Donc en fait, on met le désordre dans l'institution policière et judiciaire quand on fait ça. Et comme la contrainte par corps n'existe plus, tu ne peux pas avoir un huissier allemand qui vient te chercher en France pour t'emmener à ton procès. Ça n'existe plus, ça. Ça a été, en tout cas, en droit européen, ça n'existe pas. Donc si tu n'as pas, même si un jour tu es convoqué à un procès, si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas. Et puis, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment utiliser cette force qu'on a de déstabiliser l'appareil policier et judiciaire par l'effet de surprise de l'action directe. L'action directe, ce qu'elle a de beau, c'est qu'elle, c'est pas une action défensive. Tu te défends pas contre une réforme que tu ne veux pas. T'as un caractère d'attaque dans l'action directe. C'est toi qui es en offensive. C'est toi qui déstabilise l'État. C'est toi qui l'attaque là où il t'attend pas. Et l'effet de surprise, mais il est extraordinaire pour ça. Parce que tu déstabilises ton adversaire. Et il sait pas réagir à toi quand il s'y est pas préparé. C'est ça qu'on aimerait aussi faire comprendre, c'est qu'elle a une force immense de par son effet de surprise, de par son aspect offensif, l'action directe.
Can't say okay.
advantage of this tactic is that I'm sorry, one point I missed is that in the earlier days when there were organizers that really set up the action, those people would get repressed more, much more than the other people. So they learned from that, and now it is really the collective that organizes so that there are enough people who are more liable, let's say. And there is emphasis on the fact that it's really an attack. It's not it's not a blockade of trying to stop a reform. It's really an attack that is on the offensive, and because of that, and because of the aspect of surprise, right? They don't know where to expect you. They don't know when you're going to attack or where. It destabilizes your opponent, and that is a huge advantage.
Et puis c'est aussi une critique de l'outil de production. Vous savez, en Suisse, c'est 5 familles qui possèdent toutes les structures d'exploitation animale, par exemple. Elles ont tout, les abattoirs, les élevages, les industries qui produisent les aliments pour les animaux d'élevage, les industries qui produisent les outils dans les abattoirs, etc. Et il faut que ces familles aient peur, en fait. Le but aussi de l'action directe, c'est ça, c'est de réinstaurer une sorte de rapport de force et aussi... dorénavant, quand un abattoir se construit, il faut que la personne qui est à l'initiative de cette construction ait peur et que dans son cahier des charges, elle se dise il y a la menace que le chantier soit attaqué, il y a la menace que demain matin, quand l'abattoir va se mettre en route, on retrouve des gens qui bloquent dedans. Il faut aussi, c'est vraiment cette idée-là qu'apporte l'action directe, c'est de réinstaurer du rapport de force. Et le but, c'est qu'ils aient peur. Il faut que les propriétaires de ces outils de production-là aient peur. En plus, ça apporte aussi évidemment une critique de la propriété des moyens de production qui sont réservés à une petite élite capitaliste, etc. Tout ça, vous le savez. Mais c'est pour ça aussi qu'elle est intéressante dans ce versant-là. Je fais juste une remarque et après on prend votre question. Pour avoir vu les abattoirs en Allemagne, ces gros abattoirs usines, c'est horrible. Vous avez par une porte les travailleurs qui sont déposés en bus. C'est des travailleurs sans papier, des pauvres gens exploités, qui sont précarisés, etc., qui rentrent par une porte de l'abattoir. Et de l'autre, vous avez toutes les bétaillères qui déchargent des veaux par milliers. Et je sais pas, quand on voit ça, cet objet abattoir... vous voyez ce que je veux dire, il signifie quand même quelque chose aussi de cette souffrance en partage, de cette souffrance du prolétariat, en fait, qu'il soit humain ou animal. Et c'est pour ça que c'est une cible qui est... Ouais, je reviens toujours au même, excusez-moi, mais c'est vraiment une cible, il me semble, qu'il faut travailler et attaquer. Voilà. Oui.
Questions actually, and one is, have you tried
sur la première question, alors bien sûr, le sabotage est une... C'est difficile de le dire là, mais le sabotage est une tactique intéressante. Et évidemment que la destruction de l'outil, en fait, hein, de production et des machines, on ne peut pas la faire quand on est sur un blocage parce qu'on est interpellé à la fin du blocage. Donc évidemment, il faut être judicieux et stratégique. On sait très bien que sur ces actions-là, ça se solde le blocage par l'interpellation. Et surtout aussi, il faut bien que vous imaginiez que le blocage d'abattoir, c'est souvent le premier pas des activistes vers l'action directe, et on ne peut pas tout de suite les mettre sur des actions avec des forts risques de prison, ça va de soi. Donc sur les blocages, ça ne se fait pas, mais par contre à côté des blocages, oui, c'est une tactique qu'il faut mobiliser, la destruction en fait, voilà. Alors avec toutes les précautions bien évidemment qui vont avec, et c'est bien dommage, mais on peut difficilement rentrer ici dans le détail, mais le sabotage est une tactique éminemment importante à mettre en œuvre. Elle est très compliquée aujourd'hui, ne serait-ce que pour s'acheminer du matériel ou pour mettre en place des réseaux, c'est compliqué. Mais ça reste faisable. Je suis désolée, je suis gênée à aller plus loin dans le détail, et pourtant j'aimerais beaucoup le faire parce qu'il me semble que ça serait fort intéressant. Oui, parce qu'il y a des actions qui sont menées qui ne sont forcément pas revendiquées. Les libérations, elles sont revendiquées des mois après pour pas que la police, en fait... Parce que sur les libérations, par exemple, d'animaux, quand on est masqué, on fait tout pour, évidemment, c'est le but, ne pas être interpellé par la police. Hein. Il y a tout un travail de repérage en amont, etc., qui fait qu'on agit sans déclencher une alerte, et même en abattoir, et même avec la présence de vigiles. Et du coup, on n'est pas attrapé par la police. Et il y a les blocages d'abattoirs où on sait que ça se solde par une interpellation. Voilà, mais il y a plusieurs niveaux... Oui, et puis les ouvriers d'abattoir, je crois. Il y avait une question sur comment créer des liens, c'est ça? Ça dépend. On a parfois des contacts notamment avec les chauffeurs qui amènent les animaux à l'abattoir. Je me souviens moi d'avoir parlé avec un de ces chauffeurs qui me disait que c'était extrêmement lourd pour lui de faire ce métier-là, et que c'était pas de gaieté de cœur, ça va de soi. Après, c'est très compliqué le rapport et le contact avec les ouvriers d'abattoir, parce qu'ils... Je ne sais pas comment vous expliquer. Même quand on leur explique en fait qu'on n'est pas là contre eux et qu'on sait que c'est un métier qui génère en fait de la souffrance chez eux, c'est une parole qu'ils n'arrivent pas à recevoir en fait. C'est compliqué en fait d'établir le dialogue avec eux. Et je pense que c'est compliqué aussi parce que c'est des ouvriers précaires qui ne sont pas syndiqués, et il y a beaucoup de turnover. C'est souvent des contrats de 2-3 mois. Et c'est du coup hyper compliqué d'essayer de créer quelque chose de durable en fait avec eux, déjà parce qu'ils sont pas organisés. Tout est fait pour qu'ils ne s'organisent pas. Les ouvriers d'abattoir, ils sont pas, il y a pas, voilà, il y a pas de groupement qui les représente, etc. Donc on peut même pas prendre contact, tu vois, avec des syndicats, ce qui faciliterait les choses. Donc c'est vraiment, ça c'est une question sur laquelle on n'a pas de réponse. On ne sait pas comment, en fait, on sait qu'on fait, on ne fait pas contre eux, en fait, ces actions-là, et on essaie de le dire un maximum dans les comptes rendus, dans les relais des actions, etc. Mais par contre, pour établir un contact concret et essayer de voir si on pourrait faire quelque chose ensemble, ça c'est hyper compliqué. Je ne te le cache pas, je n'ai pas de solution. Actuellement, je ne sais pas comment on pourrait faire. Peut-être si, voilà, vous avez des... Mais je ne sais pas. Je termine juste. D'où l'intérêt de réactiver aussi l'appareil syndicat. Voilà, le syndicat qui aurait là un intérêt très clair et qui pourrait être un interlocuteur. Et juste, je voulais terminer juste là-dessus. C'est aussi parce que le mouvement animaliste, dans sa version non radicale, un peu mainstream, a toujours attaqué les ouvriers d'abattoir. Je ne sais pas s'il y a ça dans d'autres pays, mais nous, en France, les grandes associations animalistes, leur but, c'est de mettre en prison les ouvriers d'abattoir. Vous savez qu'ils sont filmés en train de commettre des actes de maltraitance. Je pense que ça existe dans d'autres pays. Il y a dans les vidéos d'abattoirs, quand on voit des ouvriers d'abattoirs faire des gestes encore pires que les gestes habituels, il y a un discours en fait du milieu animaliste qui est celui de dire « Ah, regardez cet ouvrier d'abattoir, ce qu'il fait, c'est un acte de cruauté horrible. » Alors le but de notre association, c'est qu'il soit traduit en justice. Il n'y a pas de réflexion sur le système judiciaire dans le milieu animaliste, sur le système carcéral, etc. Et ça n'engage pas non plus à faire des liens en fait avec les ouvriers d'abattoirs. Et ça, c'est aussi une parole que nous, on apporte, de celui d'engager une réflexion sur ça. Mais alors, c'est pas facile. Ça fait beaucoup de choses à faire. Je suis désolée, on doit s'arrêter là à cause de l'heure, mais on reste disponible pour les gens qui n'ont pas pu poser leurs questions en public. Enfin, voilà. Et je voulais vous dire merci beaucoup parce que c'était un moment super plaisant. Et, voilà. Et si vous voulez faire des actions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.